Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Le mois de mai ne sera pas férié pour tout le monde. Apple a annoncé cette semaine la tenue d'un événement spécial, le mardi 7 mai. Les visuels ne laissent pas de place au doute, Tim Cook dévoilera à cette occasion de nouveaux iPads. Mais lesquels exactement? On va essayer de prédire ça avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, les résultats financiers d'Apple sont attendus avec fébrilité par les investisseurs. Qualcomm met la pression sur les puces de Cupertino et l'Union européenne entérine un droit à la réparation. Nous sommes le samedi 27 avril, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Me voilà de retour après une semaine de vacances, merci à Félix d'avoir tenu la boutique pendant mon absence. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, salut à tous, oui ça va et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que j'ai manqué quelque chose la semaine dernière ?
Non, mais tu as bien fait de prendre des vacances parce que j'ai un peu peur que le week-end du 8 mai soit finalement un peu plus mouvementé que prévu avec ce spécial event qui nous arrive.
Ouais, on va en parler, mais avant ça, Apple présentera ses résultats trimestriels le 2 mai et les investisseurs sont un petit peu inquiets à ce sujet. Alors, Apple ne risque pas de disparaître, hein, vous ne vous inquiétez pas, mais il y a quand même quelques indicateurs qui tendent à penser que les résultats ne seront pas excellents. Qu'est-ce qui cloche, Christophe ?
L'iPhone avant tout. On a une séquence intéressante qui effectivement va s'ouvrir la semaine prochaine avec les résultats financiers. Et puis donc Apple va enchaîner la semaine suivante, la semaine d'après, sur un spécial event. Mm-hmm. Les deux événements sont peut-être probablement liés. Hein. C'est pas innocent, je pense, ce spécial event. Alors oui, alors pour en revenir, donc Apple a semble-t-il effectivement un problème iPhone. Alors on a eu deux, trois indicateurs qui sont assez peu encourageant, le nombre d'activations qui serait en baisse régulière aux États-Unis, donc on rappellera que c'est quand même le marché principal de l'iPhone, et la Chine qui est souvent le deuxième marché d'Apple, donc là on a appris que ces ventes de smartphones régressaient d'une année sur l'autre, alors que le marché dans l'ensemble est plutôt dynamique. Alors, la Chine, c'est une lecture un petit peu difficile. Est-ce que les consommateurs en pincent moins pour l'iPhone ou est-ce que ce sont les pressions gouvernementales qui font que les Chinois restent un petit peu à l'écart des terminaux d'Apple ? Quoi qu'il arrive, il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsqu'Apple publiera ses résultats financiers, la première chose que les investisseurs regarderont, ce sont les statistiques liées aux ventes de smartphones d'Apple et surtout ce qu'elle va dire peut-être pour le trimestre qui vient de s'ouvrir. C'est difficile de parler avant d'avoir ces chiffres officiels, mais c'est vrai que, à première vue, le verre semble quand même plutôt à moitié vide pour Apple. Hein, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, en septembre dernier, Apple nous présentait l'iPhone 15, enfin la gamme dans son ensemble, comme la mise à jour la plus importante depuis 3 ans. Donc c'est pas rien, elle espérait vraiment, à ce moment-là, lancer un nouveau cycle. A priori, je dis bien a priori, ce n'est pas le cas. Et voilà, et on aurait pu penser, à la limite, que le Vision Pro aurait pu ramener un peu d'espoir, un petit peu de peps et de dynamisme dans ce climat bien morose. Mais là encore, on a quand même de nombreuses indications qui laissent à entendre que le soufflet est retombé. Donc, hein, depuis des mois, on nous dit que le Vision Pro, par exemple, est excessivement difficile à produire et que il y a des goulots d'étranglement pour Apple concernant certains composants. Malgré tout, actuellement, on peut commander aux États-Unis un Vision Pro en moins de 24 heures. Et je crois que c'est Ming-Chin Kuo qui a revu à la baisse ses estimations de vente pour l'année en cours, sachant que ces estimations-là avaient déjà été plusieurs fois revues à la baisse. Et je suis tombé sur un article, peut-être il y a un an, de 12-18 mois, où on parlait de millions de Vision Pro qui seraient vendus dès la première année. Bon, alors ça, c'est
on est pas là,
toujours... Ouais, on n'en est pas là, mais c'est difficile quand même de faire aussi des prévisions de vente avant que l'objet soit commercialisé. D'ailleurs, il y a un précédent qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est l'Apple Watch. En interne chez Apple, la première année, on se voyait vendre des dizaines de millions d'Apple Watch. Alors, l'Apple Watch a plutôt bien marché au début, mais pas avec de tels chiffres en tout cas.
Ouais, ça va prendre un peu de temps.
Alors voilà, et donc finalement on se demande si Apple a pas un petit peu a pas décidé finalement à la dernière minute d'organiser un peu ce keynote pour faire oublier la morosité ambiante et ouvrir de nouveaux horizons. Enfin, Gurman a longtemps répété que ce n'était pas dans les intentions d'Apple d'organiser un spécial event pour la tablette d'Apple. Mais bon, il se plante assez peu sur ce genre de choses. Et puis, il y a quand même un autre point qui est quand même assez étrange, c'est organiser un spécial event le 7 mai. C'est quand même un jour férié dans de nombreux pays dans le monde. C'est quand même assez étonnant.
Et puis, c'est seulement un mois avant la WWDC aussi, ce que je trouve un peu étonnant, parce que s'il y a des nouveautés liées à iPadOS 18 pour les nouveaux iPads, on les aura seulement un mois plus tard, quoi. Ça aurait pu être le coup de, ça aurait pu valoir le coup de marquer vraiment le coup, justement, avec plein de nouveautés d'un coup pour les nouveaux iPads.
C'est vrai. Alors, c'est la question qui m'intéresse, ça va être la durée de ce keynote. Hein. Tu te souviens, parce qu'on y était tous les deux pour le keynote des MacBook M3, donc où il
fallait commencer
à 2h du matin. Et on savait que ça ne durait pas très longtemps.
Heureusement.
Mais quand on a vu que le truc durait 25-30 minutes, on était on a attendu tout ça pour. Alors, est-ce que ce sera un événement relativement court, peut-être un peu plus long cette fois-ci quand même, ou peut-être que finalement, est-ce que Apple prendra finalement son temps et en profitera pour annoncer des choses qu'elle a tendance à annoncer un peu avant la WWDC, comme elle le fait souvent, notamment pour les nouveautés relatives à accessibilité. On ne sait jamais, mais pourquoi pas.
C'est possible, ouais. Bah écoute, on en vient au second sujet, ce spécial event consacré à l'iPad. Donc, il aura lieu le 7 mai. Alors, l'horaire est assez inhabituel puisqu'il se tiendra à 16h en France. Donc, ça veut dire pas de pizza à McG, sauf si quelqu'un a vraiment, vraiment très faim, un goûter, oui, pourquoi pas. Donc, les journalistes et les influenceurs ne sont pas invités à faire le déplacement à l'Apple Park. En fait, Apple diffusera simplement une vidéo sur le web, donc comme elle l'avait fait à l'automne dernier pour les Mac M3, comme tu l'as dit. Enfin, d'après ce qu'on sait, des journalistes seront quand même invités ailleurs autour de cette date pour avoir un aperçu des nouveaux produits. Donc je précise qu'on n'est pas invité parce que si on l'était, j'aurais pas le droit de vous dire que cette présentation pour la presse est organisée.
Enfin, tu es déçu de pas aller à Londres, donc.
Non, je suis pas déçu parce que du coup, on peut dire que voilà, il y a cette petite conférence pour les quelques heureux élus. Bref, il devrait être question d'iPad lors de cet événement. Alors, sachant qu'il n'y a pas eu de nouvel iPad du tout l'année dernière, on peut s'attendre à tout ou presque. Quelles sont les nouveautés qu'on a le plus de chances de voir, Christophe ?
Alors, c'est vrai que quand on fait la liste des choses qui vont être mises à jour, et surtout comme tu disais, ça fait un an que la gamme n'a pas évolué,
ouais,
finalement, bah, ça méritait quand même bien un petit spécial event. Hein. Donc, finalement, pour faire simple, parce que c'est un peu compliqué lorsqu'on regarde ça à première vue, finalement, l'iPad va ressembler de plus en plus à un gros iPhone et avec une gamme qui ressemble à l'iPhone. Donc, on devrait avoir deux iPad Air qui devraient jouer le rôle de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, à la différence que le grand iPad Air aurait un écran 12 pouces. Donc, on peut imaginer donc un grand iPad à un prix relativement abordable. Et ensuite, donc, on aura toujours nos deux iPod Pro qui vont être remis au goût du jour, et donc là, toujours dans les mêmes dimensions, a priori d'écran, enfin, ça peut varier à quelques détails près, mais voilà, on aura toujours un iPad Pro de 12 pouces en haut de gamme. Alors, la différence entre ces gammes, entre la gamme iPad Air et la gamme iPad Pro, ce sera d'ailleurs surtout les écrans. Alors, les iPad Pro devraient enfin passer à l'OLED, on en parle depuis tellement de temps qu'on a du mal à s'en rendre compte. Pour l'iPad Air, c'est un tout petit peu plus compliqué. L'iPad Air de 10 pouces resterait sur un écran LCD rétroéclairé par des LED, tandis que le nouvel iPad Air, donc le grand, il se positionnerait en milieu haut de gamme avec un écran mini LED. Alors, le mini LED, je crois, c'est actuellement ce qu'on a sur les iPad Pro.
C'est ça.
C'est quelque chose relativement bien. Sur le grand
iPad Pro. Sur le grand iPad Pro, voilà. Ce qui sera bien d'ailleurs pour les nouveaux iPad Pro, c'est que le 11 pouces serait enfin au niveau du 12,9 pouces avec un écran OLED aussi pour sa part. Parce que là, il est désavantagé avec un écran seulement LCD. Ouais.
Alors, il va sans dire que tout ce petit monde embarquera des systèmes sur plus récents et on devrait avoir un one morphing assez déplaisant. Marc Gurman a annoncé des hausses de prix à venir. Alors, on verra. Mais l'autre grande nouveauté, finalement, ça pourrait être les accessoires. D'ailleurs, le carton d'invitation est un hommage au Pencil, hein, qui sera a priori plus polyvalent. Et on devrait également avoir de nouveaux Magic Keyboards qui devraient donner davantage une apparence d'ordinateur classique à la tablette d'Apple. Donc finalement, c'est peut-être ça qui pourrait être le plus intéressant à voir.
Ouais. Et donc les autres iPad mini, iPad d'entrée de gamme, il y en aurait sûrement des nouvelles versions cette année, mais pas avant peut-être la fin de l'année, quoi. faudra se montrer encore patient pour ceci. Alors, quelque chose qu'on n'attend pas tout de suite dans les nouveaux iPads, c'est une puce M4. Mais cette nouvelle génération de puces pourrait arriver tout de même assez vite, puisqu'elle pourrait équiper des Mac dès la fin de l'année. Alors, comme à chaque nouvelle génération, on devrait gagner en vitesse. Mais il y a une question qui commence à se poser au sujet des puces Apple. Est-ce que la concurrence est en train de les rattraper? Je pose la question parce que cette semaine, Qualcomm a dévoilé des nouveaux détails sur ses Snapdragon X, des puces qui doivent enfin faire décoller les PC à architecture ARM. Alors, les Snapdragon X sont issus des travaux de Nuvia. C'est une startup qui a été fondée par des anciens d'Apple. Et Qualcomm promet des performances du même ordre que l'Apple M3 actuel. Et puis, il y a aussi Intel et AMD qui ont fait des gros progrès ces dernières années dans les puces. Alors, est-ce que les puces M4 risquent de se faire doubler par les autres, Christophe?
Alors, il y a la théorie et la pratique. Attendons de voir ces différentes puces dans des ordinateurs et on fera des tests pour en juger. C'est peut-être un petit peu tôt pour... et surtout qu'on ne sait pas de quoi le M4 sera fait précisément. Alors, Pierre a publié un excellent papier sur le sujet qui a le mérite de faire le point. Et finalement, ce qu'il nous explique, c'est qu'on n'est plus dans les années 90. Avoir la meilleure puce, c'est pas avoir forcément le meilleur CPU avec la fréquence la plus élevée, ce genre de choses. En 2024, avoir le meilleur système sur puce, c'est avoir les meilleures performances CPU en monocœur et en multicœur, les meilleures performances au niveau du GPU quand la carte graphique est intégrée, les meilleures performances au niveau du NPU aussi pour l'intelligence artificielle qui joue un rôle de plus en plus important. Alors, non seulement il faut être meilleur dans tous ces domaines, mais il y a quand même quelque chose qui est très important, peut-être encore plus important, c'est ce fameux ratio performance par watt qu'Apple a longtemps évoqué au fil des années. Et quand on regarde finalement tous ces points-là, Apple n'est peut-être pas première partout, mais elle est toujours aux avant-postes. Et elle excelle notamment dans ce fameux ratio performance par watt qui fait que les MacBook Air, par exemple, ont une autonomie increvable et tout en étant toujours très performants.
Et pas de ventilateur en plus, quoi.
En plus. Et c'est vrai que finalement, on entendait ça dans les réactions des articles de Pierre, notamment de personnes qui gèrent des parcs informatiques. Ils disent jamais mon portable il rame ou il va pas assez vite. Les gens parlent finalement beaucoup de l'autonomie et sur ce point-là, Apple semble quand même avoir une avance assez importante. Et avoir une bonne puce, c'est bien. Encore faut-il aussi avoir une combinaison parfaite entre le logiciel et le matériel. Alors ça, on le sait, Apple a toujours excellé dans le domaine. Pierre l'a également expliqué, sur Windows, c'est plus compliqué. Le passage à ARM est un vrai souci pour deux raisons. L'élan des éditeurs pour cette architecture est relativement faible. Comme il l'expliquait, Chrome vient tout juste d'arriver dans une version native pour Windows ARM. Et l'émulateur de Windows n'a rien à voir avec celui de Rosetta. Et Microsoft... voilà, propose une version ARM de Windows, mais on ne peut pas dire qu'elle a une volonté farouche de voir cette architecture supplanter l'architecture x86 d'Intel. Donc tout ça fait que la concurrence survive, c'est une excellente nouvelle, parce que ça va pousser Apple à ne pas se reposer sur ses lauriers, mais je ne crois pas pour autant que les M4 soient condamnés à se faire doubler par Qualcomm ou quelqu'un d'autre.
Bon, tant mieux, on est rassuré. On va terminer le tour de l'actu avec une actualité liée à l'Union européenne. Alors non, il ne s'agit pas du DMA ou d'une nouvelle amende à l'encontre d'Apple, mais de droit à la réparation. Le Parlement européen a adopté un ensemble de mesures qui visent à encourager les consommateurs à faire réparer leurs produits défectueux plutôt que d'en changer pour un neuf. Et il y aura aussi des nouvelles obligations pour les fabricants. Qu'est-ce qui va changer concrètement ?
Aïe, aïe, aïe. À la base, non, c'est quelque chose d'assez, un chantier assez important. À la base, c'est du bon sens. Après, il faudra voir comment tout cela va être appliqué, comment tout cela va être transposé, par exemple, dans la loi française. Bon, alors, quelques éléments, en tout cas, de ce que l'on sait, c'est... Donc, quand tu feras réparer ton appareil, sa garantie légale se verra prolongée automatiquement d'un an. Donc, tu auras au total une garantie de 3 ans. Ça, c'est très positif, bien, ouais. On ne va pas s'en plaindre. Et même si la garantie légale expire, le fabricant sera tenu de réparer l'appareil en question dans la mesure où cela est techniquement possible. Alors ça déjà, techniquement possible, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu compliqué.
Le diable est dans les détails, quoi.
Voilà, exactement. Par contre, il y a quelque chose vraiment qui est très très bien, et ça, moi, j'ai pu l'expérimenter lorsque j'avais des problèmes avec mon MacBook Pro. Le consommateur sera en droit de demander un appareil de prêt pendant que le sien est en réparation. Et ça, c'est vrai que lorsque vous avez un problème avec un iPhone ou un Mac, alors, et que vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est vrai que l'idée actuelle, enfin, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils prennent, enfin, les délais de réparation sont quand même souvent courts chez Apple. Donc, ils achètent un Mac ou un iPhone et puis ils le rendent au bout de 14 jours, enfin, au moment où leur véritable Mac est prêt. Donc, ça, ça évitera de sortir de l'argent. Donc ça c'est très positif et voilà, et si l'appareil en question ne peut pas être réparé, voilà, l'utilisateur pourra opter pour un modèle équivalent en version reconditionnée. Ça va demander quand même un petit peu de logistique et c'est vrai que pour Apple, je suis assez curieux de savoir. Imaginons maintenant que tu reviens avec un iPhone 7, tu fais réparer ton iPhone 7, ils peuvent pas te le réparer. Est-ce qu'Apple aura forcément des iPhone 7 reconditionnés en stock? Alors bon, peut-être que tu auras une heureuse surprise, on te proposera par exemple un iPhone 8, enfin j'en sais rien, enfin ça sera à voir en tout cas.
Ouais, ou peut-être auprès d'un partenaire, je sais pas.
Possible, ouais. Alors l'autre aspect qui est très intéressant de la loi, c'est qu'Apple va devoir proposer des pièces détachées et des outils à des tarifs raisonnables. Alors, qu'est-ce que c'est raisonnable chez Apple? Donc à des réparateurs indépendants. Et voilà, et donc ça, donc, on verra que ce que ça donnera d'un point de vue tarifaire. Surtout, elle ne devra pas mettre des bâtons dans les roues des réparateurs en question avec des obstacles artificiels. Ça, on l'a vu, Apple, enfin, est-ce que c'est des obstacles artificiels, mais c'est le grand problème actuellement des appareils reconditionnés, notamment avec Touch ID lorsqu'ils sont remplacés. Même si Apple, ça, on l'a déjà vu il y a quelques semaines, est en train de travailler sur une solution et que les iPhone 15 ne devraient plus avoir ce souci.
Ouais, c'est la problématique de la sérialisation, voilà, les pièces qui sont liées à des numéros de série particuliers. Ouais.
Exactement. Et surtout, alors c'est ça qui est aussi très intéressant, un réparateur ne pourra pas refuser une réparation parce que l'appareil a déjà été réparé par un autre. Ça, c'est un problème qui se présente de temps à autre en Apple Store. Donc voilà, donc après, comme on l'a dit plus tôt, hein, les États membres ont 2 ans maintenant pour inscrire cette directive dans leur réglementation nationale. Donc il faudra attendre pour en juger parce que elle sera sans doute retravaillée au niveau national et la France a réputation d'être plutôt bon élève et d'en rajouter normalement lorsqu'elle retranscrit des lois pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, il faudra voir ce que ça donne.
Eh bien écoute, merci Christophe pour ce retour sur l'actu, bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Sortie de Veille. Salut à tous.